Sud Radio, il est 3h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Et mettez-vous d'accord, merci de nous rejoindre chers auditeurs en ce 8 mai. On espère que vous vous reposez, que vous nous écoutez. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas, si vous avez un peu de temps, que vous voulez prendre part au débat 826-300-300. On va maintenant parler du discours d'investiture du 5e mandat de Vladimir Poutine. C'était hier au Kremlin. Ensemble, nous vaincrons. C'était donc les premiers, mais aussi les derniers mots de l'allocution de Vladimir Poutine. Discours plutôt offensif, dirigé contre l'Occident, dont la politique d'agression n'empêchera pas la Russie de devenir encore plus forte. On va en parler avec nos deux invités, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta officielle, grand reporter. Bonjour Régis Le Sommier, merci d'être avec nous.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour, et avec nous également le colonel Pierre De Jong, ancien chef de corps dans la marine, vice-président de l'Institut Témis, spécialiste en géopolitique, auteur notamment d'Agir entre les lignes aux éditions Mareuil. Bonjour colonel, merci également de nous accompagner aujourd'hui.
Bonjour à tous et bonjour à Régis.
Régis Le Sommier, vous suivez l'actualité en Russie depuis plusieurs années. Bon, 5e mandat de Vladimir Poutine, vous l'avez trouvé différent des autres investitures hier?
C'est pour moi ou c'est...
Régis Le Sommier, oui.
Oui, pardon. Pardon Stéphanie. Non, j'ai trouvé, oui, différent. Oui, on sait que depuis, et ce n'est pas, propre à cette investiture, mais le ton utilisé par Vladimir Poutine, je dirais depuis quelque part les propos d'Emmanuel Macron sur la possibilité d'envoi des troupes en Ukraine a changé. D'habitude, vous savez, quand il maniait le terme nucléaire, eh bien Poutine laissait plutôt ça, je dirais, à des gens comme Medvedev ou Tolstoï, ou des gens qui portent une parole beaucoup plus incisive depuis le début de la guerre en Ukraine. Et quand Emmanuel Macron a évoqué la première fois, on se souvient de ses propos, propos de Vladimir Poutine, qui a parlé de destruction planétaire. Donc on avait changé. Et là, évidemment, avec cette 5e investiture, il fallait pas s'attendre à ce que cette rhétorique change, puisqu'on est toujours dans une accélération et surtout avec un Poutine qui aujourd'hui se sent conforté, se sent fort, a été réélu à près de 87%, peut s'enorgueillir d'un certain nombre de bonnes nouvelles, on va dire, de son point de vue. Sur la guerre en Ukraine, même si l'avancée des Russes se fait très lentement, mais elle est significative, notamment depuis la mi-février. Donc, si vous voulez, il a aussi un bilan économique qui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a 2 ans, eh bien, est plutôt satisfaisant, avec une Russie qui a plus de 3% de croissance pour 2023, et ça continue. Donc, finalement, quelque part, oui, l'affrontement continue, le discours et martial, c'était assez logique et assez attendu.
Colonel Pierre De Jong, discours martial, effectivement, Vladimir Poutine qui a ordonné la tenue d'exercices nucléaires dans un futur proche, en réponse, hein, il le dit, aux menaces occidentales. Ça veut dire quoi concrètement? Alors je précise exactement, hein, une série de mesures pour s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, très concrètement, en fait, Poutine, la journée est très importante pour lui. Pourquoi? Parce que très concrètement, c'est une nouvelle étape. Il a été, comment dire, renforcé, comment dire, dans son rôle de chef d'État, et donc il repart sur de nouvelles bases. La deuxième chose, c'est que les conditions ont changé. D'ailleurs, en référence de la, comment dire, de l'interview qu'il a fait avec Tucker Carlson, je sais pas si vous vous rappelez, en février, un grand journaliste de Sky News, où là, il avait, pendant un certain temps, je dirais presque pendant 2 heures, il avait émis toute une série de, comment dire, d'hypothèses. Il avait émis une frustration par rapport à l'Europe, par rapport à ce qui se passait, etc. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, Poutine a quand même un autre problème, c'est qu'il a un double problème. Il avait une question ukrainienne qu'il était en train de régler, qui était assez tactique quelque part, qui était politique tactique. En fait, il agissait dans son arrière-cour. Il considère très concrètement que l'Ukraine, c'est comme la Géorgie, comme la Tchétchénie, ça fait partie de son environnement direct. Donc, il traitait ce problème-là jusqu'à maintenant. C'est vrai que depuis les déclarations, je dirais, martiales des Européens et du président Macron,
Oui.
c'est vrai que son discours s'est orienté. Donc, il a un double problème. Il joue à front renversé. Premier temps, il a un discours tactique sur l'Ukraine. Et deux, il a un discours stratégique qui est orienté sur les Européens. Et là, les Européens, c'est pas avec son armée conventionnelle qu'il va pouvoir, si vous voulez, comment dire, impressionner l'Europe, qui a quand même l'OTAN, qui est quand même une structure avec 32 pays, qui est riche, qui est dense, qui est importante. Par contre, il sait, il y a un point très important, il sait que le nucléaire est une problématique extrêmement difficile. On ne gère pas le nucléaire comme on gère les armées conventionnelles. Et là, en fait, ce qu'il cherche à faire, il cherche bien évidemment à déstabiliser les Européens et déstabiliser les pays nucléaires. Parce que le nucléaire ne dissuade que le nucléaire. Le nucléaire
donc,
ne dissuade
la France, hein, accessoirement, puisqu'on est les seuls en Europe
on va dire,
à posséder
il y a
d'armes
trois
nucléaires.
pays. Il a trois pays face à lui. Il y a d'abord les États-Unis, qui sont aujourd'hui silencieux pour des raisons liées à la campagne électorale, qui sont liées au fait que la problématique des Américains, enfin le regard des Américains sur l'Europe est un regard relativement distancié. Ils sont plus concernés par les affaires de Gaza que par les affaires de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, l'OTAN géré par le nucléaire américain est plutôt longue distance. Par contre, il y a comme deux États nucléaires extrêmement actifs, je dirais proactifs dans le domaine, comment dire, des déclarations vis-à-vis de la Russie, c'est la Grande-Bretagne et la France. Et ces deux nations nucléaires, bien évidemment. Donc, encore une fois, il oriente son discours très concrètement sur les États possesseurs, qui possèdent le nucléaire, entre autres, évidemment, les Français et les Britanniques. Et ça, c'est compliqué pour nous. C'est que le ratio, le rapport de force nucléaire qui existe entre la Russie, 6000 ogives, et les Européens, concrètement, les Anglais et nous, n'a rien à voir. On est sur un ratio, je dirais, de 10%. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça le cœur du problème. Donc, encore une fois, c'est que Poutine nous oblige, si vous voulez, à un débat, à un dialogue stratégique avec lui. Et ça, c'est très compliqué parce que je ne pense pas que le président Macron ait imaginé une seule seconde qu'il entamerait ce genre de dialogue qui était en général réservé aux Américains, puisque les Américains ont 6000 ogives, sont sur le même rapport de force que les Russes. Et là, c'est vrai que c'est déstabilisant pour nous principalement, puisqu'encore une fois, on n'est pas du tout au niveau, même si notre capacité nucléaire, elle est performante, elle est précise, elle est concrètement dangereuse, mais on n'est pas
quand
dans
vous
le
dites
même
on n'est pas au niveau, colonel, nous Français, nous Européens, ou l'OTAN dans son ensemble, mais l'OTAN avec des Américains qui se désolidarisent en ce moment. D'ailleurs, je marque une pause. Je vous ai posé la question, mais on va se retrouver dans quelques instants pour la réponse, si vous le permettez. À tout de suite.
Toi, assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre.
Regarde-toi à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous ronge. On a changé à la longue.
On a
Je vis dans une maison de verre, à moitié remplie de ton eau, sans s'arrêter, le niveau monte. Je suis le fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur, seulement regarde comme on est seul.
sens et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore.
On a parcouru le chemin, on a souffert en silence et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Encore, encore, encore.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Et on continue à parler de cette investiture de Vladimir Poutine, cinquième mandat hier avec nos invités, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta officielle et grand reporter également, colonel Pierre De Jong, ancien chef de corps dans la marine, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique, le colonel qui nous disait tout à l'heure, qui nous expliquait donc ce discours offensif, ces menaces, et qu'on ne ferait pas nécessairement le poids, Régis Le Sommier. C'est vrai qu'on en parlait, les États-Unis qui commence à se désolidariser, on est un petit peu seul. Comment il faut répondre à Vladimir Poutine?
C'est assez, enfin, ce qu'on voit, ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron ces derniers mois, on va dire, c'est justement, il y a deux aspects. Il y a le fait, en effet, comme vous avez dit, que les États-Unis, qui dans la première phase de la guerre en Ukraine étaient très en pointe, sont maintenant sur l'arrière, avec un fort encouragement à l'Europe à prendre la suite, à prendre la relève. Et dans ce cas précis, Emmanuel Macron, lui, a profité justement de ce vide pour donner de la voix et pour essayer de faire entendre une voix française un peu différente en disant on peut pas laisser les Russes gagner, on peut pas, il est inenvisageable qu'ils gagnent cette guerre en Ukraine, et donc émettre ces propos extrêmement controversés, parce que en France on en parle, on en débat, etc. Mais il faut savoir que les propos d'Emmanuel Macron n'ont absolument pas été soutenus par aucun des alliés, y compris par les États-Unis, sur l'hypothèse d'envoyer des troupes. Alors c'est un affrontement direct avec Vladimir Poutine, c'est un affrontement direct verbal, et une escalade verbale qui s'est suivie. Donc la vraie question, c'est que on est dans une situation d'urgence. Moi je crois que par rapport aux déclarations officielles, oui, je pense qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui parfaitement conscient, et beaucoup de gens en Europe, qu'il y a un risque en Ukraine d'effondrement du front, qu'aujourd'hui, j'ai évoqué tout à l'heure, les Russes ont repris Grignotte, ils avancent pas à pas, quasiment tous les jours, il y a un village qui tombe. Là, aujourd'hui, cette semaine, si vous voulez, la nouveauté, c'est dans la ville de Robotyne, qui était dans le sud, dans la zone de Zaporodje, c'était la ville où les Ukrainiens avaient perdu énormément de chars, mais qu'ils avaient conquis l'été dernier dans leur fameuse contre-offensive. C'est parti des terres que l'Ukraine avait reconquis. Eh bien, aujourd'hui, ces gains ont été quasiment anéantis. La ville de Robotyne a été reprise par les Russes. Donc ça ne veut pas dire que
l'aide tarde. Donc l'aide actée des Américains, mais qui ne va pas arriver tout de suite, Régis, le Sommier.
Non, elle ne va pas arriver tout de suite, et tous les indicateurs au niveau de l'Ukraine sont au rouge. Le problème des hommes, le problème des munitions, le problème des lignes défensives, si vous voulez, au milieu, à la mi-février, et je pense que j'aimerais beaucoup avoir le commentaire du colonel Pierre De Jong aussi là-dessus, au moment de la conquête d'Avdivka, il y a eu un véritable changement sur le terrain, c'est-à-dire que les Russes, là, se sont mis à progresser. Ils ont pris environ 500 km de pluie à l'est. C'est complètement différent de ce qui s'est passé après Bakhmout, où ils se sont contentés de prendre Bakhmout et d'user l'armée ukrainienne. Là, on est reparti sur un mouvement vers l'ouest, un mouvement certes lent, mais qui laisse envisager aux Russes une conquête du Donbass probable. Et après le Donbass, entre le Donbass et le Dniepr, il n'y a plus rien.
On va écouter ce qu'en pense le colonel. On redonne la parole dans quelques instants. Régis, colonel Pierre De Jong, vous partagez donc cette analyse de Régis Le Sommier?
À 100%, d'autant que Régis connaît parfaitement le terrain, et il sait exactement de quoi il parle, bien évidemment, il y était plusieurs fois, donc il sait très bien ce qui se passe localement. C'est vrai qu'Advitka, qui a été pris par les Russes le 17 février 2024, donc il y a quelques semaines, si vous voulez, a été à l'instant décisif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a réalisé que les Ukrainiens n'étaient pas sur une bonne, comment dire, n'avaient pas anticipé un repli. Et là, ils engagent ce qu'on appelle une manœuvre rétrograde qui est extrêmement difficile à monter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Ukrainiens reculent sous la pression. Et comme ils n'ont pas d'artillerie, ils n'arrivent pas à bloquer ou à limiter la progression, même lente, des Russes. Donc les unités, quand elles reculent, quand elles veulent s'installer sur une position préparée à l'avance, quelques kilomètres derrière, elles ne peuvent pas parce qu'elles ont la pression des lignes russes. Et les Russes, aujourd'hui, ont très bien compris la problématique des munitions comment dire, des Ukrainiens, et ils restent au contact et ils poussent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Ukrainiens sont obligés de rester sur le terrain et reculer progressivement, avoir des pertes et ne pas pouvoir limiter, en tout cas bloquer cette progression. Et là, en ça, les Russes manœuvrent correctement. En général, ils sont plutôt bons en défensive qu'en offensive, mais là, ils ont très bien compris la problématique et ils vont avancer. D'autant que, et je termine juste là-dessus, ils savent que le chronomètre tourne et que les munitions et le matériel, enfin les 61 milliards vont commencer à faire des petits, comme on dit, et bien évidemment, ce matériel va arriver dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Donc ils ont intérêt aujourd'hui à progresser et non pas à s'arrêter.
Et quelle peut être la réponse européenne? Est-ce qu'elle vous paraît adéquate? Justement, on ne vous a pas entendu sur la position un peu de fermeté et un peu isolée d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Le colonel.
Il faut bien faire quelque chose. Encore une fois, je pense que le président Macron a, comment dire, a bien anticipé, ou très concrètement, il a pris conscience de tout ça. D'autant que la France, aujourd'hui, est une puissance nucléaire, donc elle a vocation à être quand même leader, quelque part, si vous voulez, de ce pilier européen qu'évoquait Régis il y a quelques minutes. Donc c'est vrai que là, il fait de la politique européenne, quasiment de la politique intérieure, il se positionne. Donc c'est vrai, il a intérêt. Maintenant, encore une fois, le problème, vous savez, dans la guerre, il ne faut pas avoir des prétentions plus haute qu'on ne le peut. Vous savez, quand le président Macron parle d'ambiguïté stratégique, c'est compliqué. C'est le cardinal de Retz disait une chose que j'aime beaucoup et qui vraiment correspond bien à la période, c'est qu'on sort toujours de l'ambiguïté à ses propres dépens. Et c'est ça qui risque de nous arriver, c'est qu'il faut être conscient de nos limites, conscient de ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'en même temps, on peut être, je dirais, fort, consistant, mais en même temps, il faut être capable d'engager un débat. Je pense que le débat trop militarisé n'est jamais très bon avec des Russes.
Régis Le Sommier, Emmanuel Macron avait certainement des espérances, forcément. Il est déçu avec la visite de Xi Jinping, qui n'a pas pipé mot hein, sur l'Ukraine, à part peut-être l'engagement de ne pas livrer d'armes à l'Ukraine, mais c'est tout, hein, il n'a rien obtenu.
Non, il n'y a rien eu d'obtenu concrètement. Je sais qu'on a beaucoup glosé, on a beaucoup discuté. J'écoutais, il y a eu des débats infinis à savoir est-ce que Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, parce qu'ils
Ah oui, c'est vrai qu'elle était à côté. Non,
voilà, est-ce que les deux vont pouvoir infléchir la solidarité marquée, affichée par les Chinois vis-à-vis des Russes? La réalité, c'est que non, il n'en était. Il n'y a rien qui a changé. Alors, sur la question, en effet, des Russes, les Chinois, ne livrent pas de matériel militaire aux Russes, mais en revanche, ils livrent des composants qui permettent aux Russes justement de se développer dans des domaines de haute technologie et de compléter leur panoplie au niveau de leur production
donc on
militaire.
Donc, quelque part, hypocrisie absolue, comme souvent.
Pardon?
On est dans l'hypocrisie absolue,
non,
comme souvent.
Mais totalement. Mais avec les Chinois, il fallait s'attendre. Donc, il fallait pas s'attendre à ce que cette visite change des choses. Cette guerre a rapproché de facto la Russie de la Chine. On avait dit, oui, on va pousser les Russes dans les bras des Chinois. Bah, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ça avait été annoncé, hein, et finalement, il n'y a pas beaucoup de surprises là-dedans. Oui, alors on peut dire...
Les Russes ont tout gagné avec
cette
guerre.
Ça change,
malheureusement, on n'a pas le temps d'entamer un second débat, mais enfin, y compris économiquement. Hein, on se souvient de la phrase de Bruno Le Maire, on va mettre à genoux la Russie. Bon, l'Europe est plus entamée que la Russie à l'issue de cette guerre, hein, qui n'est pas terminée
d'ailleurs. Mais non, mais cette phrase est l'incarnation de la déconnexion totale de certaines de nos élites par rapport à la réalité géopolitique et géoéconomique.
Colonel, le mot de la fin pour vous? La Russie s'en tire plutôt bien et Vladimir Poutine a plutôt pris des crédits sur cette guerre.
En fait, ce qui se passe, c'est que Poutine et les Russes ont l'initiative. C'est eux qui mènent le bal. Ils mènent le bal sur le terrain tactiquement parlant, ils sont dominants. Mmh. Stratégiquement parlant, ils sont dominants puisqu'ils sont massifs en termes de missiles nucléaires et d'hypervélocité, donc de vitesse des missiles. Et troisième point, ils sont dominants en termes politiques puisque l'exploit, en fait, de Poutine, ça a été quand même de solidifier les BRICS dans une position, je dirais, au minimum attentiste, au minimum neutre par rapport à l'Occident. Mmh. En fait, c'est l'Occident, c'est l'OTAN qui se retrouve d'une certaine manière isolé par rapport au monde. Et c'est ça le cœur du problème. On est seul et Macron a essayé que Xi Jinping d'essayer de mettre un coin, si vous voulez, dans cette espèce de relation bilatérale très forte entre la Chine et la Russie. Mais bien sûr, c'est très compliqué et le Chinois ne s'est pas laissé faire.
Merci à tous les deux, Régis Le Sommier, colonel Merci. Pierre de Jong, d'avoir été avec nous. Et dans quelques instants, on continue à parler de la Chine avec Denis Jacquet, qui a écrit un livre sur le sujet « Pourquoi votre prochain patron sera chinois ?» Tout un programme, c'est dans quelques instants.
Écoutez Sud Radio Strasbourg en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
On se retrouve en direct sur Sud Radio en ce 8 mai. N'hésitez pas, chers auditeurs, si vous êtes tranquillement chez vous, à nous écouter, de venir réagir au standard avec le sourire de Aude qui vous accueillera 0826 300 300. Je reçois maintenant Denis Jacquet, président de Top Crime, président de l'Observatoire également de l'ubérisation. Denis Jacquet qui va nous parler de la Chine, puisqu'il a écrit... Bonjour Denis
bonjour
Jacquet,
Stéphane,
tout d'abord,
bonjour,
j'allais faire ma petite introduction. Mais je vais la faire quand même. Pourquoi votre prochain patron sera chinois, avec en exergue peut-on renverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard, aux éditions Erol. C'est un titre un petit peu provocateur, mais tellement vrai, non?
Tellement vrai, oui, parce que finalement, très trivialement, la Chine est en train de progressivement toucher le jackpot et s'offre le monde en bloc. C'est-à-dire que ce qui nous a un petit peu inspiré comme Eric quand on a fait ce livre, c'est qu'il faut se remettre 3-4 ans en arrière. Le monde ne voyait que les GAFAM, donc ces fameuses grandes sociétés américaines, les Google, Microsoft, etc. On analyse le monde à travers l'évolution et le rapport de force avec les GAFAM. Il n'y a pas un institutionnel, vous parliez tout à l'heure dans le reportage précédent où votre invité de la déconnexion de nos élites qui est une réalité depuis tellement longtemps. Alors effectivement, ils ne comprennent pas grand-chose à beaucoup de choses, mais là pour le coup à la Chine, c'était même pas de la non-compréhension, c'était du non-intérêt. Et on s'est dit, mais en fait, la Chine est en train de devenir une puissance majeure. À l'époque, Eric Schmidt qui dirigeait Google disait, ils sont bientôt aussi forts, voire plus forts que nous sur l'intelligence artificielle, qui est quand même la technologie qui va permettre de dominer le monde demain. Et tout le monde a les regards braqués sur les États-Unis et personne ne sait ce qui se passe en Chine. Et cette espèce d'arrogance...
Et oui, une forme d'arrogance.
D'arrogance, c'est déconnexion et arrogance. Mais les deux sont un petit peu liés. C'est-à-dire que
ça fait longtemps qu'on entend la musique de Nijaquet. Ils vont nous bouffer. Bon, ça, on l'entend depuis longtemps.
Coluche qui disait avec beaucoup d'humour, quand vous mélangez le blanc et le jaune, à la fin, il reste que le jaune.
Donc il y avait quand même malgré tout une forme de désintérêt, de se dire, allez...
Oui, parce que pour la plupart des élites européennes et notamment françaises, la Chine est un pays qui ne fait copier, donc un copieur, c'est pas beau, c'est péché, c'est sale, ça n'a aucun intérêt. Ils innovent pas, ce qui est juste l'inverse de ce qui se passe. Et puis surtout, c'est pas un régime démocratique que nous, on l'entend. Donc c'est l'heure telle qu'on l'imposait au monde, mais... On peut y trouver quand même beaucoup d'avantages, mais on voit aussi qu'aujourd'hui, c'est plus un mot qu'une réalité. On voit les débats de ces dernières semaines, on s'aperçoit qu'en fait, gangréné par l'extrême gauche, aujourd'hui, et le mainstream, on s'aperçoit que la démocratie, ça, c'est plus un mot très enflé qu'une réalité quotidienne. Donc on s'est dit, mais il faut qu'on réveille un petit peu les gens là-dessus, les institutions, les entreprises. On a du renseignement qui est censé nous donner des informations. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on attend d'eux a priori. Donc, ils devraient vous dire, mais la Chine avance à toute vitesse. Ses plans quinquennaux marchent formidablement bien. Il faut le savoir, les dirigeants, 80% des dirigeants chinois sont des ingénieurs. Ils comprennent la technologie, ils comprennent tout ce qu'il faut faire aujourd'hui pour s'imposer au monde. Et puis surtout, ils ont une revanche à prendre sur l'humanité parce que les Anglais, les Français les ont décimés au 19e siècle. Ils ont... étouffés sous la guerre de l'opium, leur ont piqué toutes les innovations.
Expliquez-nous, et qu'on s'arrête quelques instants, parce que ça, peut-être que nos jeunes auditeurs, pardon, pas téléspectateurs, auditeurs, ignorent ce pan, d'ailleurs d'autres aussi. Il y a cet esprit, selon vous, revanchard de la Chine.
Oui, c'est clair. Au-delà de la revanche, c'est surtout une expérience douloureuse. Et à un moment donné, quand on a eu mal, on n'a pas envie que ça apparaisse à nouveau. Donc la Chine a toujours dit, les étrangers ont toujours été pour nous une source de malheur.
Oui.
Donc dès qu'ils sont arrivés chez nous, ils ont tout pris, ils ont ruiné à l'époque l'empereur, ils ont assassiné, ils ont mis notre peuple sur l'opium, ils l'ont asservi, ils ont piqué toutes nos innovations, puisque la Chine était au contraire un pays extrêmement innovant dont on a réimporté la plupart des innovations. Puis maintenant, on a dit, c'est un mauvais copieur, on a juste commencé par le faire. Il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, la Chine était la première puissance commerciale mondiale. Donc, on a quand même été détrôné des gens qui étaient beaucoup plus forts que nous. Et donc, en fait, le chinois, aujourd'hui, c'est dans l'ADN.
Ouais,
c'est-à-dire que l'étranger, il est tolérable pour ce qu'il peut apporter. Il est intolérable le jour où il veut prendre le pouvoir sur quelque chose. Ce qui fait que toute entreprise qui va s'installer là-bas, elle est la bienvenue tant qu'on peut absorber son savoir-faire, sa technologie.
Vous avez essayé ? Vous êtes allé là-bas, justement ?
Non, mais on observe par contre toutes les entreprises qui sont allées, les grandes américaines, les grandes françaises, en fait, tous les gens de Peugeot, de Citroën vous raconteront leurs expériences extrêmement malheureuses. Et une fois qu'ils ont absorbé le savoir-faire, non seulement ils l'améliorent, et c'est ça le génie chinois, c'est la capacité d'innover et de transformer à partir de quelque chose qu'ils ont copié, comme ils le font avec l'écriture, tout petit. Donc pour eux, copier, c'est pas péché. Bon. Mais c'est surtout qu'après, ils innovent. Et aujourd'hui, même l'Allemagne, qui était censée être la ressource d'innovation, d'industrie de précision en Europe, c'est fini. Ils vont chercher une partie de leurs innovations en Chine. Donc les Chinois sont vraiment passés dans le millénaire d'après, ils préparent le millénaire d'après pendant qu'on continue à camper dans le millénaire d'avant.
Mais donc, vous dites qu'ils ils copient pas, mais enfin, ils ont un peu copié quand même.
Mais ils ont copié longtemps, mais ce qu'il faut comprendre dans la culture chinoise, c'est quand vous êtes un petit chinois ou un petit asiatique en général, vous commencez par écrire. Et l'écriture chinoise est très complexe. Donc vous copiez, vous la recopiez, jusqu'à temps que vous la maîtrisiez. C'est ce qu'ils font avec les industries. Ils la copient, la recopient, etc. Et puis à un moment donné, on dit, si tu veux vraiment être bon, il faut innover, il faut améliorer. Et là, ils font beaucoup mieux. Et en fait, leur génie à eux, c'est pas toujours sur la créativité d'origine, c'est la capacité d'en faire quelque chose de différent. Et c'est là où ils sont excessivement forts. Ils adaptent à leur culture et après, ils le réexportent, comme ils l'ont fait avec TikTok. Finalement, ils ont un peu piqué l'Internet américain.
Absolument.
Ils ont fait un WeChat que nous, on est incapables de faire. Ils ont fait TikTok qui a envahi le monde. Donc, ils ont une vraie capacité ensuite à innover à partir d'une chose qu'ils ont copiée. Mais maintenant, la copie, c'est une toute petite partie de l'économie chinoise. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'elle innove, qu'elle crée et que les autres, maintenant, viennent s'inspirer des Chinois sur les batteries, aujourd'hui. Enfin, moi,
Les batteries au lithium sont faites exclusivement là-bas.
Voilà, bien sûr. Et moi, j'ai un vieux téléphone dont je tairai la marque, bien connue de marque chinoise depuis 4 ans. Il tient de 7h du matin à 7h le soir. Il me reste encore 20% pendant que j'ai déjà rechargé deux fois mon Samsung ou mon Apple dans la journée. Donc ils ont vraiment aujourd'hui développé des savoir-faire incroyables en améliorant ce que nous on a fait pendant un premier temps.
Alors quels sont justement les domaines j'imagine qu'on pense à l'intelligence artificielle où on est copieusement en retard, nous les Européens, les Chinois eux, sont déjà très en avance, à égalité avec les Américains.
Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, la Chine a dit voilà, on était une puissance commerciale majeure, on n'est pas très bon pour faire la guerre. Par contre, on est très bon pour dominer le monde à partir du commerce.
Oui.
Donc en fait, ils ont déjà rebâti ce qui existait au XVe siècle, c'est-à-dire la route de la soie, c'est-à-dire la capacité effectivement d'emmener des marchandises ou de recevoir des marchandises dans n'importe quoi du monde à une vitesse phénoménale.
Surtout qu'on leur vend les ports,
nos
ports maritimes, donc une bonne preuve de naïveté
exactement.
De notre part peut-être
Oh, mais on est complètement naïf, enfin, on pourra y revenir sur l'attitude européenne,
c'est
la catastrophe.
En tout cas, la route de la soie.
Réussir à irriguer le monde entier d'infrastructures qui permettent de transporter, de recevoir et de diffuser tout ce qu'eux produisent et de rapatrier ce dont ils ont besoin. La seule caractéristique d'un porte-container chinois par rapport à tous les porte-containers du monde, moi je suis à Miami donc j'en vois passer sous ma fenêtre tous les jours, ça arrive plein, ça repart plein. Vous ne voyez jamais un porte-container repartir à vide, ça n'existe pas. C'est plein à l'aller, c'est plein au retour. Donc ça c'est la première chose. Donc déjà quand vous avez toute l'infrastructure pour le commerce mondial, vous êtes déjà très puissant. La deuxième chose, ils disent mais on est 1,5 milliard, la planète fera 9 milliards, qui va nous faire à manger demain ? Ils achètent toutes les terres agricoles, comme le font aussi les Moyen-Orientaux depuis un moment. Tout ce qui est disponible en Australie, ils achètent des champs, des terres, etc. Qui va cultiver ?
Donc dans
qui
les
va
autres
faire
pays,
la nourriture dans tous les autres pays ?
Dans les autres pays.
Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément planter dans son propre pays, même quand il est immense comme celui de la Chine, problème climatique, et ensuite, la capacité de dire je vais nourrir les autres, mais je vais surtout nourrir ma pro. Et là aussi, c'est le passé. Mao, dans sa folie, avait envoyé tous les intellectuels à la campagne. Il a affamé la moitié de sa population. Plus jamais il y aura de famine en Chine. Donc c'est le deuxième traumatisme qu'ils soignent aujourd'hui. Mais ça, ils se l'étaient créé eux-mêmes. Et le troisième, c'est de dire, qu'est-ce qui va dominer le monde aujourd'hui? C'est l'intelligence artificielle, c'est le quantique, c'est tout ce qui va aujourd'hui donner accès à de la data. La data, c'est l'or d'aujourd'hui déjà et de demain encore plus. Tous ces systèmes aussi d'abrutissement par les réseaux sociaux qui font que, au-delà de la génération Sciences Po qu'on voit en ce moment, on génère des décérébrés qui ne connaissent rien, mais qui quand même se permettent de manifester qu'ils ne le savent pas. Bon. Et donc, du coup, on a effectivement aujourd'hui une Chine qui, depuis près de 30 ans, investit sur l'intelligence artificielle et qui fait jeu égal avec les États-Unis déjà depuis 5 ans. Mais si vous prenez qu'on appelle les PhD aux États-Unis, c'est-à-dire les maîtres de thèse et les plus beaux papiers, les plus grands papiers. Aujourd'hui, la plus grande production, elle est faite en Chine. Donc, du coup, ils ont les infrastructures commerciales, ils ont tout ce qui va permettre d'alimenter les nations du monde demain. Et en plus, sur la data et l'intelligence artificielle, ils sont les numéros 1 bis mondiaux. Donc, on ne voit pas ce qui peut les arrêter. Et aujourd'hui, le véhicule électrique, et demain, il sera chinois. Enfin, je veux dire, à part Tesla et quelques-uns, personne ne va résister.
Oui, et ce qui frappe, c'est que malgré les discours un petit peu offensifs européens, c'est que tous les domaines que vous nous avez cités, c'est des domaines où on a de très grosses difficultés, où on est en retard. Enfin, l'agriculture, on a vu cette crise agricole. C'est quoi ça? C'est une forme de naïveté, une forme d'arrogance
Mais je pense qu'on a au niveau de l'Europe la même déconnexion qu'on a au niveau de la France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ceux qui nous gouvernent sont quand même des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc globalement, vous les avez jamais vus dans une entreprise, jamais vus dans un commerce, jamais vus comme
Emmanuel
agriculteur.
Emmanuel Macron était banquier.
Ouais, il a fait un stage de 18 mois. Je veux dire, c'est quand même une expérience illimitée pour savoir ce que c'est que la vraie vie. Bon.
Oui.
Donc du coup, à un moment donné, la plupart, Bruno Le Maire, etc., c'est des gens qui ont fait une carrière essentiellement politique. Ils n'ont jamais travaillé. Mais enfin, c'est pas ce gouvernement-là, c'est le précédent, etc.
Oui.
Donc des gens déconnectés pour qui l'économie est souvent un péché, parce qu'il y a quand même une tradition très à gauche, et notamment à Bercy, qui est quand même très anti-entreprise. Vous prenez Pierre Moscovici, c'est pas anti-entreprise, c'est une détestation fondamentale.
Vous prenez aujourd'hui Olivia Grégoire, elle est plutôt business, Macron, je veux pas me défendre Macron, mais enfin, voilà, il y avait quand même
c'est pas
un
excessivement
effort.
Nul, mais quand vous réfléchissez, nous on a beaucoup bossé avec Macron avant qu'il soit élu.
Oui.
On lui expliquait le digital, etc. Mais quand on parlait avec lui, il avait tout compris. Donc, ce n'est pas un problème de compréhension et de neurones, c'est un problème d'application. C'est comme les startups, c'est jamais un problème d'idée, c'est un problème d'exécution. On est à 7 ans de sa première élection. Vous avez vu, vous, un plan sur l'intelligence artificielle, un plan sur le quantique, un plan sur l'espace, etc. Donc, ils savent tous, ils le savent, que le monde va être dominé par ça. Mais l'année dernière, Emmanuel Macron a crânement annoncé un plan de 500 millions d'euros. Alors j'ai regardé en Chine, c'est la 38e ville chinoise qui a à peu près ce budget-là. Donc la première, on parle d'un plan en plusieurs trilliards de dollars sur 5 ans en Chine. Et aujourd'hui, l'Europe, avec ses 400 et quelques millions d'habitants, investit à peine un tiers de ce que la Chine investit, à peine un tiers de ce qu'investit les États-Unis. Donc qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui?
Ils sont un petit peu plus nombreux aussi.
On régule.
Hein,
oui, mais rapporté au PIB et rapporté au nombre d'habitants. Donc vraiment en proportion totale. Donc pas sur les volumes, parce que là, les volumes, on est 50 fois inférieurs. Mais ramené à notre PIB ou ramené à notre nombre d'habitants, ils sont à un tiers de ce que fait les États-Unis, un tiers de la Chine. Donc on parle en trilliards, eux parlent en trilliards et nous on parle en millions. Donc il y a un aveuglement. Enfin, je vous rappelle quand même qu'en février à Davos, Ursula von der Leyen, qui n'est jamais à l'abri d'un grand moment d'élocution, nous dit « Ah ouais, dans une interview, écoutez, l'IA, ça semble quand même être un sujet important. »
Attendez, en quelle année?
Là, il y a en février dernier, elle dit « Oui, l'IA, c'est un sujet important, il faut que l'Europe s'en saisisse. » Mais il serait temps d'y réfléchir. Donc le problème, c'est que c'est beaucoup de temps pour d'investissement. Et les politiques français vous disent « Ah oui, mais on a quand même Mistral en France, qui est une très belle boîte d'IA, etc. Qui, dans 2 ans, je vous le parie, sera achetée par Microsoft, donc sera déjà américaine dans moins de 2 ans, qui a levé 100 ou 200 millions. Pendant ce temps-là, Sam Altman, sur OpenAI aux États-Unis, a déjà levé plus de 20 milliards. Donc je veux dire, voilà, on sait tout de suite qui va conquérir le monde avec ses 500 millions, ses 100 millions, 5 milliards. Donc c'est une déconnexion. C'est une non-réalité. Et ensuite, l'Europe a dit, puisqu'on ne sait pas faire, puisqu'on n'a aucune ambition et aucune vision, on va réguler. Donc, l'enfant, aujourd'hui,
ça,
ils ont un discours offensif.
Voilà,
discours offensif, réalité défensive.
Justement.
Donc, en fait, c'est une équipe de défenseurs.
On va en parler, Denis Jacquet, puisque je rappelle le sous-titre de votre titre, pourquoi votre prochain patron sera chinois, eh bien, c'est peut-on renverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard. Oui, on va en parler, on va voir si c'est vraiment trop tard dans quelques instants. We'll be right back.
Sud Radio Pau.
102.
Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord, Stéphanie Demuru.
Mettez-vous d'accord avec nous-mêmes, non, puisque Denis Jacquet, président de Top Cream, président également de l'Observatoire de l'ubérisation, qui a écrit il y a quelques années aux côtés de Homéric de Sarthe pourquoi votre prochain patron sera chinois et est-ce qu'on peut renverser la vapeur avant qu'il ne soit trop tard aux éditions Erol. Vous êtes quelques-uns à réagir quand même en ce 8 mai, 0826 300 300, et on prend tout de suite un auditeur, Olivier, qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier, vous vouliez...
Bonjour Madame de Meuru, bonjour Monsieur Jacquet.
On est ravis de vous avoir.
Merci de remplacer André Bercoff en partie, parce qu'il n'est pas là.
Irremplaçable André Bercoff, mais voilà.
J'adore Saint-André, dira-t-on.
On l'embrasse d'ailleurs.
Je vais dire plusieurs choses sur la Chine. Ils sont diaboliquement intelligents. Ce sont des gens, par exemple, on prend un aspect industriel, le rail, c'est-à-dire, si vous prenez China Railway High Speed, c'est-à-dire c'est une société d'État chinois qui a réuni plusieurs autres compagnies, et en fait, ils ont retourné l'arme contre nous, puisqu'ils ont pris, par exemple, l'ICE en termes de technologie, et une partie du, si votre invité me corrige, le Shinkansen japonais. Mmh. Et ce qu'ils déferlent sur l'Europe de l'Est massivement avec leurs trains, bien entendu, et face à Bombardier qui a été absorbé par Alstom avec difficulté, c'est-à-dire que le problème nous c'est l'Europe. L'Europe est un frein au développement de nos compagnies en France. Par exemple, pour que Bombardier soit absorbé par Alstom, la Commission européenne de Bruxelles, maudite soit-elle, a demandé à ce que Alstom cède des sites historiques comme celui de Reichshoffen. Donc, grosso modo, on n'est pas à armes égales face aux Chinois. Les Chinois cannibalisent les deux tiers des marchés mondiaux en termes de trains à haute vitesse. Le Japon a la faculté de se protéger parce qu'ils sont pas stupides. Le Shinkansen et ses technologies, sans toucher les rails, en l'occurrence, font que ils ont compris ce que font les Chinois. Et les Chinois aussi sont diaboliquement intelligents en Afrique. Ils ne donnent pas de leçons de morale comme nous, les Français, historiquement par rapport à la colonisation. Ils arrivent, ils font du business, et surtout quand ils prête de l'argent entre 20 et 40, 60 milliards de dollars à des pays africains pour des infrastructures. Il leur dit, si vous ne remboursez pas, on prend une concession de 60 à 100 ans sur vos ressources pétrolières, gazières et minières. Et en fait, c'est vraiment, quand je dis intelligent, ils font pareil. Ils sont par exemple en Bolivie. En Bolivie, Morales, qui était un échec total sur le lithium. Moi, je suis opposé au lithium parce que c'est une pollution monumentale extraire. Et ben maintenant, c'est les Chinois qui extraient et qui financent l'extraction du lithium, en l'occurrence, et ils concluent partout des alliances, en l'occurrence. Donc en fait, tant que la France sera dans l'Union européenne, et l'Union européenne est incapable de se protéger, puisqu'on a des gouvernements incompétents, incapables, qui sont complètement désaxés de la base. Donc voilà, c'est pas sur les nouvelles technologies,
TikTok ou autre. Merci voilà, Olivier, on va laisser répondre Denis. En tout cas, merci à vous de votre intervention qui était fort intéressante. Denis Jacquet nous en a parlé de ces Chinois. Voilà, la route de la soie, qui achètent des ports maritimes, qui achètent, voilà, qui investissent en Afrique. Et puis Olivier le remarquait, pas de leçon de morale. Alors c'est vrai qu'on a vu la visite de Xi Jinping. Alors, il y a toujours le petit chapitre. On lui a parlé des droits de l'homme comme s'il allait s'effrayer devant Emmanuel Macron qui lui parle des droits de l'homme. Et puis cette question de l'Europe. Ça vous a d'ailleurs choqué que Ursula von der Leyen soit constamment aux côtés d'Emmanuel Macron pour recevoir le président chinois? Ça dit quoi, ça, Denis Jacquet, justement, notre relation avec eux?
En termes de communication, pour Macron, c'est habile, parce que dire, voilà, c'est l'Europe qui vous reçoit et pas seulement la France, forcément, c'est plutôt 440 millions de personnes que 68 millions, donc c'est censé impressionner un petit peu plus. Bon, je ne suis pas sûr qu'il soit reparti estomaqué, mais bon, Ursula von der Leyen, moi, je n'ai rien contre cette femme en particulier, mais quand vous regardez son bilan de ces dernières années, c'est juste une catastrophe. D'abord, elle s'est exprimée sur tous les sujets sur lesquels normalement elle n'est pas censée avoir ni une compétence ni une intervention. Son seul sujet pratiquement ces dernières années, c'est l'Ukraine. Il y a quand même d'autres sujets dans le monde, même si c'est un sujet important, qu'il est à nos frontières, que c'est géopolitique. Mais il y a quand même quelques petits autres sujets à traiter. Et c'est surtout effectivement cette incapacité à traiter les autres sujets stratégiques qui m'inquiète. Aujourd'hui, l'Europe, on le voit depuis plus de 17 ans, année après année, décline. Donc ça devrait quand même interroger à un moment
donné. Est-ce que la France serait mieux seule, ou c'est un boulet, la France, pour faire face la Chine?
La France a... C'est-à-dire, aucun des pays européens n'a la capacité de résister à la Chine. Bon, donc de toute façon, notre avenir ne peut s'écrire que dans une Europe... mais pas dans cette Europe-là. C'est-à-dire dans une Europe avec une vision. Et à nouveau, je le rappelle, quand vous êtes gouverné par des gens, certes peut-être communistes, encore d'apparence, mais qui sont des ingénieurs, c'est quand même des gens qui ont travaillé, qui savent ce que c'est qu'un principe de base, de la technologie, etc. Ils la comprennent. Ceux qui nous gouvernent, à un ou deux près, ne savent... Vous leur parlez d'intelligence artificielle, au bout de 10 secondes, ils n'ont plus rien à dire. Ils savent même pas comment ça fonctionne et ce que ça peut donner. Donc, il y a une vision qui est très forte. Il y a une stratégie qui est forte. Bon, il citait l'Afrique. C'est vrai qu'en Afrique, que je connais extrêmement bien, ils sont aussi sans état d'âme. C'est-à-dire que on parlait de morale, c'est plutôt sans état d'âme. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec les ouvriers dans des containers. Alors, je suis désolé d'être trivial, les prostituées dans un autre container, parce qu'il faut que les Chinois soient avec des prostituées chinoises, ce n'est pas des prostituées locales. Ils arrivent avec tout. Ils copient même des produits africains qu'ils vont faire fabriquer en Chine pour les réimporter en Afrique. L'Afrique n'y gagne strictement rien. Par contre, ils corrompent à tout vent. C'est-à-dire que non seulement ils investissent, mais la corruption est colossale. C'est-à-dire quand vous regardez les commissions que versent les Chinois pour prendre les marchés, elles sont absolument astronomiques. Donc on peut qualifier ça dans une grande enveloppe de morale, mais ils n'en ont aucune. Eux, ils sont là pour bâtir des infrastructures, prendre la possession des infrastructures, exploiter ces infrastructures, quoi qu'il en coûte.
Alors que la France a été, entre guillemets, foutue dehors d'Afrique.
Donc, je ne vais pas admirer le fait qu'il corrompe, parce que vous allez, je ne sais pas, au mois de décembre à Abidjan, vous voulez une langouste, ben non, tous les bateaux chinois sont en face, les emmènent en Asie, et les Africains, il y a des moments, n'ont plus de langouste à manger parce qu'ils ont tout pêché. Donc, je ne suis pas admiratif de la façon dont ça se passe, je suis admiratif de la stratégie qui, malheureusement, est redoutablement efficace, est en train de nous absorber, et seuls les États-Unis aujourd'hui sont capables de les contrer. Et
si parce que vous nous avez toujours pas dit si on pouvait renverser. Vous posez la question, est-ce qu'on peut renverser la vapeur avant qu'il soit trop tard?
Je pense qu'il faudrait déjà renverser la table à l'Europe et effectivement mais transformer la gouvernance de l'Europe de façon hallucinante, c'est-à-dire avec des gens à leur tête qui soient vraiment des visionnaires et qui ont vraiment une ambition pour l'Europe et pas des technocrates ou des gens déconnectés de la réalité. La deuxième, ça serait d'avoir sur les plans stratégiques de se dire, bah, si on peut mobiliser comme ça 50 milliards un jour pour l'autre pour acheter des armes pour l'Ukraine, on doit peut-être pouvoir mobiliser 500 milliards pour s'offrir des géants à l'échelle européenne. La deuxième, c'est qu'on a très intérêt à se rapprocher encore plus des États-Unis, avec qui au moins on peut discuter et faire des choses un petit peu d'égal à égal, on va le dire comme ça. Ça n'arrivera jamais avec la Chine. Donc aujourd'hui, l'association, c'est l'Europe plus les États-Unis pour réussir à préserver une vague place dans l'économie mondiale
demain. On n'en prend pas le chemin. Hein.
Voilà, et on n'en prend pas le chemin. Et donc, tant qu'en plus, il y aura toujours cette espèce d'arrogance liée au régime politique de la Chine en disant « on ne peut pas discuter avec des gens qui sont comme nous », il arrivera
après,
rien.
Après, on discute, la preuve, hein, on l'a reçu en grande pompe, le
et
président.
Et quand on regarde le résultat à la sortie, qu'est-ce qui sort
pas
sur les droits de l'homme,
il
lâchera jamais rien.
Voilà.
Les Chinois veulent rester Chinois. Donc les Ouïghours musulmans, soit ils se plient, soit ils sont traités comme ils sont traités. Alors, moi, je ne préconise pas ça, mais aujourd'hui, nous, on se fait, je suis désolé, et sans racisme, on se fait bouffer par l'islamo-gauchisme. On le voit avec toutes ces manifestations depuis le 7 octobre qui sont juste infâmes et répugnantes, à Sciences Po comme ailleurs. Mais ils ont dit ça ne nous arrivera jamais. Mais ce n'est pas qu'ils sont
vous pensez qu'ils regardent l'Europe, comme d'ailleurs le fait Vladimir Poutine, hein, en disant qu'il y a une forme de décadence. Ben, c'est un petit peu
les valeurs occidentales, c'est des valeurs relativement décadentes. Et puis ils disent, voilà, bon, l'Europe, tout ça, les États-Unis, ça fait 5 siècles que ça domine. Ben maintenant, c'est les BRICS. Donc, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, la Russie, la Chine. Tout ça, ça va s'associer. Et ça va créer un nouveau monde avec des nouvelles règles. Alors moi, à nouveau, j'irai pas vivre en Turquie, j'irai pas à cause de son président actuel, j'irai pas vivre en Chine parce que c'est pas mon truc. Mais malheureusement, ça marche et ils sont puissants. Et aujourd'hui, quand vous regroupez toutes les énergies pétrolières, fossiles, le lithium, tout ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, bah, ils sont tous associés entre eux et contre nous. Pas contre nous au sens petite compétition gentille, compétition extrêmement agressive, et en disant mais regardez, à 30 ans, si vous voulez une source d'énergie,
est-ce qu'on a les armes? J'entendais quelqu'un tout à l'heure dire autour de la table, on n'est pas armes égales, enfin c'est notre auditeur d'ailleurs, Olivier, mais
c'est juste intellectuellement qu'on n'est pas armes égales.
Est-ce qu'on a le pouvoir de lutter?
Un continent de 447 millions devrait être capable de faire ce qu'un continent presque de 300 et quelques millions aux États-Unis fait, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de mobiliser des financements. Elle a les moyens de mobiliser des industries, elle a les moyens de payer sa recherche qu'elle ne paye pas, elle a les moyens de réanimer l'éducation qu'elle ne rééduque pas. Oui, à 447 millions d'habitants, vous avez les moyens de lutter, mais il faut une vision et une ambition, donc c'est ça qui manque. Donc on en revient bien aux ceux qui nous dirigent, qui n'ont pas ce qu'il faut pour impulser ce qui nous permet de vivre
l'image. Voilà. Merci beaucoup Denis Jacquet d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.
Et dans quelques instants, la suite des programmes sur Sud Radio, le meilleur d'ailleurs de Berkov. Vous retrouvez l'ami André, super. Et puis on se retrouve nous demain à 10h45. Merci à vous.
Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Sud Radio Agen
102.3
Sud Radio.
J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches à supporter les dimanches, et quand le lien s'était fait, tendre face à la porte, dire que l'été n'est pas mort et que le mal est passé. C'était trop tôt, je sais. J'aurais voulu te rendre fier, passer des minutes blanches, rester au creux de tes hanches, accoudé à tes barrières. Même si j'ai mal à la tête lorsque tu penses à ton ex, même si vous deux c'est réglé. Enfin du moins je pensais, je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal, mal. J'ai pas fumé cet hiver, puis j'ai ressenti le manque quand j'ai senti ton errance, quand j'ai senti le mal-être. Prendre de toi les vacances, c'est un écho de violence, c'est un bouquet écrasé. C'était trop tôt, je sais. Alors j'ai fumé hier, mais y a toujours le manque, car je danse sur la transe, mais t'es pas là à côté. J'avais cette envie immense de continuer la romance et de ne pas tout planquer. C'était trop tôt, et je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal, mal. Non, je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre. Je ne serai pas le roi, puis si je reste là,
si je reste là,
dis-moi ça ferait,
dis-moi
quoi,
ça ferait quoi.
Mal, mal, mal. Non, je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps. Je veux qu'on me mordre, que ce soit fort, que ce soit fort. Mais ce sera pas toi, non, ce sera pas toi. Dis-moi ça fait quoi. Mal, mal. Je ne vais pas revenir.
Sud Radio.
Sud Radio.
Sud.
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 Radio.
But the
la patience affaiblie. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentir, des IO amour. Tu le sauras un jour. J'aime, j'aime.